Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouveau 10-10 sur FM+. Nous sommes lundi, je ne sais pas quel jour, mais c'est lundi. C'est Nathalie au micro et derrière la vitre, je suis avec Yann. Bonjour Yann. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle et Pablo Jean-Père. On les a déjà reçus ici. Vous connaissez peut-être leur voix et leur travail. Mère et fils, c'est un duo d'experts passionnés qui ont fondé Potentiel au Top. Leur mission ? Transformer les neuroparticularités en véritables atouts, accompagner les familles et les entrepreneurs à haut potentiel et sensibiliser à la neurodiversité. Isabelle, Pablo, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bien, bonjour, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde.
Bonjour
et
tout
merci
le monde.
Pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir de se retrouver.
Exactement.
Exactement.
Hein, voilà.
C'est vrai.
C'est le deuxième ou troisième rendez-vous en studio ?
Le deuxième.
Je crois que c'est le deuxième en studio.
Et puis une fois, on s'est vu à la Gazette aussi.
Oui, à la
oui.
Gazette, on s'est vu à un petit salon du livre.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
J'avais présenté, je vous avais reçu, oui. D'ailleurs pas dans le 10-10, je vous avais reçu pour présenter votre livre.
Exactement.
Que j'avais découvert au Salon du Livre de Castries, qui doit d'ailleurs avoir lieu hier,
ah bah oui.
Puisque
oui.
Nous sommes lundi, hier.
C'est ça.
C'est ça, tout à fait, c'est ça.
Il a eu lieu hier.
J'espère sous la pluie, j'espère pas sous
non.
la pluie en tout cas, voilà. Mais, et j'avais trouvé votre livre, donc vous me rappelez le titre ?
Parents d'ado à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé.
Et vous étiez tous les deux, c'était une journée de pluie, hein. Je me rappelle qu'il faisait pas très
beau. Il faisait pas très beau, il faisait
oh.
froid,
voilà.
On avait peur d'avoir
chaud,
mais il faisait froid en fait.
Ouais. C'est vrai.
Et j'ai vu le, et on a regardé le, enfin j'ai regardé le livre et j'ai trouvé ça passionnant. Je me dis, bah, venez en parler parce que c'est quand même un sujet dont on parle peu.
Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait.
Potentiel au top, c'est donc maintenant le nom de votre, c'est une entreprise, hein. C'est pas une association, c'est une entreprise.
Oui, tout à fait.
Oui.
Si vous deviez le définir en une phrase, ça serait quoi ?
En une phrase, ce serait que chaque neuro-atypique puisse trouver sa place, que ce soit à l'école, en tant qu'auto-entrepreneur, entrepreneur ou en tant que dans l'entreprise aussi, en tant que salarié ou en tant que manager, enfin en tant que même dirigeant.
Parce qu'aujourd'hui, peut-être la série HPI a un peu aidé ou pas aidé alors
hein ? Alors, c'est un peu à double tranchant parce qu'effectivement, du coup, on nous dit des choses du genre c'est à la mode. Ben
oui.
Non, en fait. Ou alors, la série HPI, le problème, c'est... Parce que finalement, j'ai fini par regarder un ou deux
oui.
épisodes parce que je regarde
pas trop. Mais moi aussi, du coup, on s'est mis à regarder.
On s'est mis à regarder deux ou trois épisodes. On a trouvé que c'était drôle. Mais par contre... La personne qui joue donc HPI dans le, enfin qui est HPI dans la série,
oh,
on a l'impression
ouais.
qu'on lui a tout mis en fait,
ouais.
tous
oui,
les
beaucoup de
tout
choses.
Ce qui existe.
Elle est un peu bionique quand même.
Voilà, c'est ça. Elle a tout, toutes les particularités du HPI lui ont été données, ouais. donc ça fait un peu beaucoup. Et dans la vie, c'est rarement comme ça. Mais il y a des choses qui.
Je crois que les gens savent pas trop d'ailleurs entre les neurodivergents, les neuro, les HPI, les borderline, hein, y a ça aussi.
Oui.
Les hyper-émotifs.
Mais c'est un peu...
Il y a un peu tous les genres. Et puis, il y a aussi des mômes qui sont juste, excusez-moi, avec deux guillemets, chiants.
Oui, ça existe.
Il y en a aussi, oui. voilà. Oui, et que les parents
même
disent...
Même des gens qui sont
oui.
chiants. Il n'y a pas que des enfants. Hein.
Mais moi, j'ai une fille instite et bon, c'est vrai que je fréquente les instites. Et aujourd'hui, c'est un peu la mode de dire non, mais mon enfant n'est pas juste pénible. Il est ceci, cela. C'est pour ça que je pense que c'est bien régulièrement d'expliquer ce que c'est vraiment HPI, qu'il y en a presque autant de différents que de personnalités différentes, hein, comme nous.
Hein,
nous
aussi, oui, tout
est,
à fait.
Voilà,
oui.
tous différents. Et de réexpliquer par contre comment sentir, et c'est ce que vous avez expliqué très bien dans votre bouquin, c'est qu'il y a des signes, il y a des trucs. Voilà.
Ouais,
et qu'en les travaillant, en les abordant différemment...
C'est ça, en fait, il y a toute une terminologie autour de la neurodiversité, parce que ça englobe tout un panel de réalités. Et donc, on a notamment donc, le neuroatypisme qui, lui, regroupe 15 à 20% de la population, dont fait partie le haut potentiel, qui, lui, concerne 2,3% de la population qui ont un QI supérieur ou égal à 130. Mais donc, on a aussi d'autres neuroparticularités comme le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mmh. Maintenant, on met tout le temps le H, en fait. On met TDAH. Et en fait, tout ça, effectivement, il y a des signes propres à chacun. Donc, en fait, le neuroatypisme, c'est une famille. Donc, il y a des points communs. Le point commun, c'est un mode de fonctionnement différent de la norme. Mais il y a quand même des particularités propres à chacun de ces modes. C'est pour ça, quand on fait toute une liste de caractéristiques, il y en a qui se ressemblent, mais il y en a d'autres qui sont très différentes. Et effectivement, là où on peut distinguer... En fait, là où on va distinguer une neuroparticularité, c'est... On va dire, le fait que ce soit tout le temps présent, des modes de fonctionnement qui sont tout le temps présents, c'est pas juste une passe, c'est un mode de fonctionnement qui est différent, c'est des raisonnements différents, c'est une façon aussi d'absorber l'information qui est différente.
Et rien à voir avec l'autisme Asperger, ça n'a rien à voir du
Alors,
tout.
Alors, si, tout à fait, c'est aussi dans les neuroparticulaires. En fait, la neurodivergence, on va dire, pour faire au sens large, parce qu'il y a effectivement la neurodivergence qui là regroupe effectivement les personnes qui peuvent aussi avoir une déficience mentale, qui peuvent être borderline, des choses comme ça. Nous, on est vraiment plus sur le neuroatypisme. Et dans le neuroatypisme, effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant, en fait, trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, mais il y a aussi avec, qui est plus dans la neurodivergence. Donc nous, voilà. Ça en fait aussi partie. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient changé le terme et que ce soit vraiment le spectre de l'autisme, parce qu'effectivement, il y a vraiment un spectre. Il y a aussi un gros problème, mais ça, il faudrait en faire une émission dessus. J'ai envie de dire que 99% des femmes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ne sont pas détectées, ne sont pas diagnostiquées. Moi, j'ai entendu encore, il y a une humoriste il n'y a pas longtemps qui l'a dit, alors qu'elle est, elle est plus jeune que moi, mais elle n'est pas toute jeune non plus,
Laura Lone,
elle est jeune encore, mais il y a Florence Mendez, donc qui l'a découvert il n'y a pas si longtemps, et je ne sais pas quel âge elle a, mais elle n'est pas non plus, Et donc ça, c'est des personnes, en fait, elles ont quand même vécu une grosse partie de leur vie en ayant un trouble du spectre de l'autisme et en passant pour des folding, entre guillemets, j'aime pas trop le titre, mais c'est un peu ça.
Des bizarres.
Et c'est vrai que, en fait, c'est quand même vraiment, il y a vraiment des particularités qui font des richesses, parce que justement, la plupart, justement, elles apportent quelque chose d'incroyable. Mais quand c'est pas détecté, en fait, on fait son chemin, bon an, mal an. Et hélas, alors pour Laura Lone et Florence Mendez, c'est bien parce qu'elles ont trouvé leur place dans l'humour et c'est chouette pour nous en plus. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment dramatique. Et nous, ce qu'on voit, que ce soit chez des jeunes et chez des moins jeunes, c'est des personnes qui soit ne vont pas du tout vers les études parce que ça leur fait carrément peur, soit elles arrivent à faire des études, mais elles se retrouvent quand même à faire des jobs alimentaires. On n'a rien compté de job alimentaire, attention, c'est pas le souci, exactement. Mais parce qu'en fait, c'est trop compliqué de s'investir, de se faire comprendre, d'arriver à trouver sa place. C'est trop compliqué, finalement, quand on fait un job alimentaire, en fait, on vous demande une ou deux tâches, et finalement, on fait ces une ou deux tâches. Et on ne vous demande pas plus, vous rentrez chez vous et c'est terminé en fait.
Mais après, il y a un peu cette envie en fait, qu'on nous laisse tranquille finalement, qui du coup devient un frein parce qu'on s'empêche de faire des choses ou alors on se bloque tout simplement. Et ça devient effectivement quelque chose de récurrent. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente chez ces profils.
On va parler de tout ce que vous proposez, mais j'ai une dernière question sur vous. La question c'était, qu'est-ce qui vous a mené, on le sait, c'est Pablo. C'est Pablo, c'est l'histoire de Pablo qui vous a permis, et en découvrant l'histoire de Pablo, vous avez aussi découvert la vôtre.
Exactement. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte ce que c'est comme travail pour une maman, parce que c'est souvent les mamans, je suis désolée, il y a quand même des papas, mais c'est quand même souvent les mamans. Et déjà, rien qu'en soi, c'est un boulot, Et à côté, on a quand même souvent un autre boulot, parce que...
Bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, cette team, ces révélations ont fait que vous avez eu envie d'en faire un métier, puisque aujourd'hui, c'est votre métier à tous les deux?
Ça a commencé, moi je voulais montrer à Pablo qu'il y avait d'autres façons de vivre sa vie, et moi ça faisait très longtemps que je voulais être à mon compte pour être traductrice, donc rien à voir. Et donc je commençais à faire ça, Pablo il était en fin de lycée, mais pas au lycée, il a été déscolarisé, il s'est dit, tiens, j'ai envie de faire un blog pour aider les jeunes qui ont aussi des soucis comme moi, comment s'organiser, parce que alors ça aussi un grand problème. Comment s'organiser, il faut vraiment avoir une autre... comme on est différent finalement, il faut avoir une façon différente de faire les choses. Et il faut trouver cette façon-là. Et donc Pablo, il a commencé comme ça. Puis en fait, comme on était chacun en train de développer nos activités, il a commencé son blog, moi je commençais mon site, et puis on discutait, on échangeait. Puis en fait, c'est venu comme ça, on s'est dit, mais en fait... Ce qui a fait qu'on a réussi, que Pablo a réussi, c'est que je l'accompagne en fait, qu'on s'accompagne, qu'il me fasse confiance aussi, parce que l'adolescence, c'est le moment où on s'éloigne de ses parents et c'est bien aussi.
Et il y a un moment où le lien justement a été vraiment rompu, quand j'ai vécu effectivement un épisode très difficile de dépression, harcèlement scolaire, il y avait des fois où j'avais plus du tout confiance, ni plus du tout envie de vivre, et j'étais complètement seul dans une bulle dépressive. Et heureusement qu'on s'est justement reconstruit et qu'après, toute cette histoire, en fait, a fait qu'on s'est dit, mais oui, c'est une évidence, faut qu'on collabore.
Et aujourd'hui, vous êtes adulte, Pablo, vous diriez que c'est une force d'être tous les deux et justement d'avoir, avec des façons différentes, tous les deux, de vivre justement ces troubles. Ça vous réunit, évidemment.
C'est ça, c'est bien
mais
sûr.
Est-ce que 1 plus 1, ça fait encore plus quoi.
Bah c'est ça, oui. C'est, comme on dit, c'est même pas multiplié, c'est même mis au carré, voire encore plus qu'au carré, au cube, puissance 4, si ce que vous voulez. Parce qu'en fait, on est tous les deux neuroatypiques, mais on a des choses en commun, donc notamment le haut potentiel de TDAH, mais on a aussi chacun des neuroparticularités différentes. Par exemple, j'ai une dyspraxie avec une dysgraphie aussi.
Multi-10,
tout ça, et le TSA aussi. Et après, il y a plein de choses qu'on a, que toi tu as, que moi je n'ai pas. Toi, tu as plus le côté H du TDA, on va dire. Enfin, du TDAH.
Mental.
Souvent, on dit ça. Voilà. Donc, en fait, on dit qu'on se complète très bien et que ça fait quelque chose où on est très différent, mais 1 plus 1 fait beaucoup plus que 2. Quoi.
Ouais. On va parler de tout ce qui est plus nouveau, mais la base de la. Au début, donc, vous décidez de créer votre entreprise. Il y a combien de temps maintenant ?
Ça fait
4-5 ans déjà, non
parce que
plus de 6 ans.
Parce que nous, on se connaît déjà presque depuis 5 ans. Vous avez quel âge maintenant, Pablo ?
Là, j'ai 23 presque.
Ouais, moi, je vous ai connu, vous n'aviez pas 20 ans, ça,
non.
C'est sûr.
Au
début, c'était quoi l'idée ? C'était de l'accompagnement personnalisé ?
En fait, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'en parlant de notre histoire, on était chacun dans des. Lui, donc, il avait décidé qu'il ne voulait pas du tout être salarié. Donc, moi, je lui disais, tu peux essayer de trouver des. Voilà. Donc, en fait, on a commencé à être dans des clubs, dans des endroits où on échangeait. Et en fait, les gens, quand on leur parlait de notre histoire, ils disaient, mais nous, on a besoin de savoir comment vous avez fait. Il faut nous aider parce que nous, on n'y arrive pas. Donc, en fait, là est venue l'idée de, effectivement, nous, on a su créer. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que quand on vit ça, on est très, 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 très seul. On trouve des gens qui vous diagnostiquent, vous testent, parce qu'il y a des choses, c'est des diagnostics. Il y a d'autres choses, c'est des tests. Il y a des choses, c'est compliqué. Hein. Mais bon, voilà. Donc, vous rencontrez plein de professionnels qui vous disent, vous êtes ça, vous avez ça, vous machin. OK. Mais le problème, c'est qu'après, il n'y a personne qui vous aide. Ou en tout cas, quand vous trouvez quelqu'un qui vous aide, il vous donne sa méthode. Et si vous ne fonctionnez pas avec cette méthode, vous vous retrouvez encore plus désemparé parce que vous vous dites, mais mince, quoi, déjà, j'avais enfin trouvé quelqu'un et sa méthode, elle ne fonctionne pas sur moi. Donc, en fait, vous repartez 100 pas en arrière, en fait. Et c'est la chose qu'on a vue en commun. D'ailleurs, on a l'impression qu'on parle vraiment la même langue dès qu'on rencontre quelqu'un qui vit la même chose que nous. Parce que tout de suite, on a l'impression, vous savez, que même quand c'est au téléphone, on sent quoi, que c'est vraiment, ça dégage tout. Quoi. C'est un de fou, quoi. Le monde s'ouvre.
Vous avez monté des modules, comment ça se fait ? Bon, vous essayez de vous faire connaître dans des réunions, dans des congrès.
Au début, voilà.
Vous avez été très actif là-dessus. Mais vous avez monté des modules de formation. Est-ce que c'est individuel déjà au début ?
En fait, au départ, on a vraiment fait de l'accompagnement individuel.
Ouais,
C'est-à-dire que vraiment, on a senti que c'était ça qui était nous, qui nous appelait. Et on ne voyait pas faire une formation sur ça, parce qu'en fait, c'est tellement humain. Et chaque personne est tellement différente. Moi, je trouve qu'à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, vraiment un accompagnement. Hein, parce qu'on a aussi des formations.
Oui, parce qu'en effet, vous n'êtes pas psy. Vous êtes quoi, coach ?
Alors oui, on est coach. On est énormément formé parce que c'est vrai qu'on parle de nous parce que notre histoire elle est tellement forte que. Mais à côté de ça, Pablo il est formé en plein de choses.
Avec comme on est dans tout ça, avec les formations Calliope, tous ces trucs-là, vous avez ça ou pas ?
On est organisme de formation référencé.
C'est important de le dire.
Exactement. Tout à fait. Donc ça, nous des formations, on en fait vraiment pour les professionnels. La formation c'est vraiment pour les professionnels. Tout ce qui est pour les particuliers, ça c'est vraiment de l'individuel. Alors on a des formules courtes. Où on fait vraiment un bilan très court sur ces problématiques simples et précises, comme ça, c'est pas des sommes faramineuses. Et après, on est sur des accompagnements. Et sur l'accompagnement, je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, mais ça va me revenir ou pas. Moi j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois, c'est un challenge. Parce que nous, on vient avec nos formations, on vient avec nos idées, on vient avec tout ce qu'on a vécu, nous, avec toutes les personnes qu'on a accompagnées. Mais chaque personne a parce qu'elle a un but différent. Chaque personne a un but différent. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie de vivre une scolarité entre guillemets normale. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie de trouver un job entre guillemets normal aussi. Donc en fait, on doit s'adapter à ces personnes-là. Donc nous, on a fait énormément de formations, on est formé en énormément de choses.
Que ce soit de l'ikigai, la psychologie,
la préparation mentale, psychologie positive, communication non violente. Enfin voilà, on a fait énormément de choses.
Mais en fait, il n'y a pas de méthode unique qui marche. C'est ça qu'on dit souvent. On doit s'adapter. Chaque personne est différente. Et même si des personnes ont des neuroparticularités en commun, en fait, le fait de les mettre ensemble, ça donne jamais le même résultat.
C'est ça.
Et du coup, on doit tout le temps s'adapter. Il faut savoir qu'en plus, ce sont des profils effectivement qui sautent souvent d'une méthode à l'autre. Ils trouvent quelque chose, ils disent c'est génial, ça marche, et donc ils pensent qu'ils vont faire ça tout le temps, mais en fait, d'un seul coup, ça marche plus. Et il faut changer.
C'est bien ce qui est mis dans votre livre, hein, c'est que c'est des clés, mais c'est pas des solutions.
Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est se créer une boîte à outils. Moi, je dis toujours, faut se créer une boîte à outils. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais là, pour le coup, c'est vrai, avec des choses qui sont qui peuvent intervenir. Et si, surtout si ça ne fonctionne pas, pas s'acharner, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave en fait. On utilise autre chose. Et c'est ça qui est difficile de trouver avec des thérapeutes. Parce que les thérapeutes, ils ont leur truc à eux et ils ont fait des années d'études et tout ça. Et souvent, ils ne se forment pas forcément. Alors, il y en a qui se forment quand même en continu, il ne faut pas exagérer, mais ils sont moins, vous savez. Et surtout, ils sont plus dans, il y a une séance, machin, il y a un peu moins d'accompagnement. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement, enfin nous et d'autres personnes, hein, bien sûr, mais où vraiment les personnes, voilà, elles peuvent nous envoyer un message, elles peuvent nous envoyer un vocal, ça, j'en ai marre et tout ça. Puis nous, paf, on leur répond, bah, attends, rappelle-toi que si, que ça. Et c'est tout bête, mais en fait, ça fait le petit déclic de se dire, ben bah, oui, ou fais attention, parce que tu as toujours dit oui à non à tout. Maintenant, il faut arriver à dire non et savoir comment on le dit, parce que
oui.
C'est ça le problème souvent.
Qu'est-ce qui, tout d'un coup, donc, il y a d'abord, on s'occupe de Pablo, après, on élargit, c'est des entretiens individuels, après, il y a l'écriture du bouquin,
voilà,
tout ouais, ça.
C'est ça, en fait, là,
j'ai l'impression
là.
Qu'à chaque jour, je vois d'année ouais, en année, le pas se fait plus grand.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, vous vous êtes rendu compte que c'était une évidence et presque une urgence de vous adresser aux entrepreneurs, puisque on, évidemment, avec Pablo, on en a parlé souvent de son chemin d'ado, de dépressif, de déscolarisation, tout ça, on le comprend bien. Et comment vous en êtes arrivé, justement, voilà, à vous dire, mais en définitive, ces gens-là arrivent tous à l'âge de Pablo, et ils vont pas tous être auto-entrepreneurs, donc il va falloir aller parler aux entrepreneurs pour leur dire, vous en avez, et vous allez en recruter.
C'est ça, oui. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, donc en fait, il y a eu quand même un moment où, donc, en tant qu'entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui nous ont dit, hey, mais moi, je suis pas ado, mais est-ce que tu pourrais m'aider, quoi? Alors, ben oui. Donc, on a commencé, et effectivement, on a créé une formation aussi pour les entrepreneurs, notamment pour accompagner les personnes qui sont neuroatypiques, parce qu'en fait, finalement, ils se privent de c'est quand même 15 à 20% de personnes qui sont neuroatypiques.
C'est un public en plus qui est riche, et donc, comme on l'a dit, vu que c'est des méthodes, ça nous pousse en fait à innover, à tout le temps nous remettre en question, et ça nous fait progresser. Chaque fois qu'on travaille avec des profils comme ça, vraiment on se dit, ah oui, c'est incroyable, il m'a fait découvrir quelque chose, il a remis en question quelque chose, c'était vraiment incroyable. Et souvent, grâce à ces profils, en fait, on évolue énormément, quoi.
Parce que par exemple, il y a un exemple typique que moi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans l'organisation, qui est super, hein, mais qui dit, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Alors oui, dans la plupart des communs des mortels, effectivement. Sauf que, par exemple, moi, je rêverais de ne faire que deux choses en même temps. C'est un rêve pour moi que je n'ai pas encore atteint. Donc, en fait, si vous voulez, il y a des profils, on ne peut pas leur dire ça. Et en fait, soit ces profils-là vont se faire du mal, parce qu'ils vont dire ça, ou alors ils vont décrocher de la personne qui va leur parler. Ils ne vont plus avoir confiance, ils ne vont plus progresser dans leur apprentissage. Ce qui est vraiment normal parce que, par exemple, de l'organisation, on en a besoin aussi. On n'est pas organisé, on a du mal, on ne sait pas prioriser. Ça, c'est un gros problème.
Ah oui, oui. Après, il y a des outils.
Il y a des outils, mais ils sont très compliqués parce que c'est pareil, c'est des outils qui ne sont pas adaptés ou qu'on n'arrive pas à adapter forcément à nous.
Oui,
par exemple, on aime bien, nous, la matrice d'Eisenhower, mais la matrice d'Eisenhower, on l'a, remasterisée des milliards de fois, quoi. Je veux dire, même déjà rien que pour nous, moi j'ai mis je sais pas combien de temps avant de comprendre comment ça pouvait m'être utile à moi. Maintenant que j'ai compris, j'arrive à l'adapter à chaque personne dans sa problématique en fait.
Oui, parce qu'en plus, il y a aussi vraiment l'assimilation de l'information qui est différente, ça aussi. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a comment elle est organisée dans le cerveau, il y a comment on la reçoit. Et parfois, il y a un rejet total de certaines choses. Et ça, c'est vrai quand il y a donc des méthodes qui sont expliquées d'une certaine façon et des mots qui sont employés, des phrases qui sont utilisées qui ne correspondent pas du tout et la personne ne comprend pas. Et c'est pas qu'elle comprend pas, mais c'est qu'elle est vraiment ça bloque en fait.
Ouais, son cerveau dit stop.
Elle comprend les mots, mais elle ne comprend pas le contexte. Elle comprend pas dans quel contexte on lui demande ça en fait.
On va parler longuement. Là, on va faire une petite pause musicale.
Yes.
Vous avez choisi pour nous Derrière le brouillard. Louane est encore malade. On écoute et on se retrouve pour parler plus spécifiquement de l'accompagnement en entreprise. À tout de suite.
À tout de suite.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois. Trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner cet humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter. Même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson?
Et vous êtes sur Radio FM+. On arrête un peu cette belle chanson, c'est dommage. Hein, on parlait en off que c'était aussi Grand Corps Malade et Louane avec des expériences différentes, mais deux parcours de vie très particuliers.
Oui, tout à fait.
Et chez elle, on voit cette fragilité.
Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça parle aussi du handicap qui aussi rejoint un peu le neuroatypisme, puisqu'il y a beaucoup de neuroatypismes qui sont reconnus comme handicap. Après, les gens se font reconnaître ou pas, mais c'est reconnu.
Oui, c'est compliqué. Mais je vois Louane, il y en a une autre là en ce moment, c'est Alizé, la grossophobie. Enfin voilà, c'est abominable.
Oh là, mon Dieu.
Abominable.
Non, mais on est vraiment. Ouais.
Dans un monde de dingue. Ouais, on en disait en off. Mais donc, on va revenir à comment sortir un peu ce monde de dingue, ouais, de là où il est. Je voulais vraiment parler de ce que vous avez fait, puisque depuis plus d'un an, vous êtes organisme de formation et vous proposez des formations, des accompagnements en entreprise pour sensibiliser aux situations problématiques liées au RPS, donc les RPS, les risques psychosociaux. C'est une activité qui complète donc l'engagement dont on parle, qui est depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer cette nouvelle activité ou à vous pencher là-dessus?
Alors en fait, c'est arrivé vraiment au même moment. En fait, on a été contacté par un grand groupe de banques qui a voulu qu'on sensibilise donc à cette question-là. Donc ça a été une chose. On s'est dit, ah bah oui, c'est vrai. Et parallèlement, on s'est rendu compte, parce que donc on a accompagné des adolescents, après on s'est mis à accompagner des entrepreneurs, mais pas que des entrepreneurs aussi. On a été contacté notamment des psychologues qui nous conseillaient, en fait, parce qu'ils se rendaient compte. Il y a des psychologues qui se rendent compte qu'à un moment, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et donc, on s'est retrouvés avec des personnes qui étaient salariées dans grandes entreprises, qui étaient des gens qui étaient ultra diplômés, tout ça, mais qui, pareil, qui n'étaient pas où ils devaient être. En fait. Et on s'est rendu compte finalement que l'entreprise, c'est une mini-société, hein, et que l'entreprise, elle a un rôle à jouer, et elle a même une obligation, en fait, hein, de le faire. Et que finalement, et ce qu'on comprend, hein, les managers qui se retrouvent comme ça avec des profils comme ça, neuroatypiques, reconnus ou pas reconnus, parce que voilà, on est sur ça, ils ont du mal à gérer. Et comme on le disait tout à l'heure, un neuroatypique qui est bloqué, c'est un neuroatypique qui peut être très, très pénible.
Oui.
Et quelqu'un de très, très pénible, si on ne sait pas comment le gérer, on va finir par le maltraiter.
C'est ça.
Et quand on maltraite quelqu'un, déjà, un, c'est pas bien. Deux, c'est même interdit. Donc, nous, vraiment, c'est important pour nous d'apporter ça au sein des entreprises parce que, déjà, c'est notre vécu. Aussi, pourquoi on n'a pas fait certaines choses dans notre vie. Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, en fait, j'ai jamais été dans des entreprises. En fait, j'ai toujours fait soit du social, soit d'éducatif. Oui, c'est vrai.
Mais c'est ça, toujours. Ma vie.
Ma vie, elle est tellement longue.
Il vous connaît bien, c'est pas
ça pourrait être votre fille.
Il me connaît bien, en fait.
Oui, tout à fait.
Pourtant, il y a une partie de ma vie où il n'était pas là, quand même.
Mais... Oui, mais t'as fait.
Il en connaît quand
t'as
même.
T'as fait mille et un métiers, je le sais.
C'est vrai, ouais, c'est vrai que j'ai fait. C'est ça. En fait, j'ai fait mille et un métiers parce que finalement, à chaque fois, je ne me sentais pas tout à fait bien. Donc, il fallait que je change et que je change et que je change et que je change. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup à apporter. Moi, j'ai récemment participé à un mémoire d'une jeune. D'ailleurs, c'était rigolo parce que c'était sur Montpellier, donc ça tombe bien. Justement, elle a fait un mémoire sur l'importance de la neurodivergence. Alors, c'était la neurodivergence, donc au sens large, dans l'entreprise. Et hélas, elle n'a pu faire que des statistiques avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande,
le Canada. Plutôt
anglo-saxon, effectivement. Mais bon, le Royaume-Uni, ce n'est pas non plus hyper loin de chez nous. Quoi, hein, voilà. Et en fait, ça a énormément de conséquences positive en fait. Et surtout, il ne faut pas oublier quelque chose qui est hyper important pour les entreprises, si vous nous écoutez aujourd'hui. La marque employeur, c'est ce qui va vous donner un plus pour les générations à venir. Les nouvelles générations, elles ne vont pas avoir besoin de gagner beaucoup plus, même si on va quand même être obligé, puisque voilà. Mais elles, ce qu'elles veulent, c'est être dans un environnement inclusif, être dans un environnement bienveillant.
Et qui a du sens, oui.
Qui a du sens. Où il y a des personnes qui sont porteurs de handicap et c'est qui ça. Apportent un plus. Les personnes neuroatypiques, elles pensent autrement. Et des fois, on peut mettre 6 mois à chercher une situation alors que la personne, elle va vous sortir la solution, là, paf, comme ça, tout de suite.
Et c'est vrai que je pense, on en parlait en préparant l'émission, mais sur la démarche RSE, par exemple, c'est quelque chose, pour les jeunes, d'extrêmement important.
Oui.
Et il n'y a plus du tout cette mentalité que quand on rentrait dans le milieu du travail. Moi, je suis rentrée en 78, hein, sur le milieu du travail, donc il y a quand même très longtemps, où quasiment on restait plein de carrière.
Vie, voilà.
Tout ça, ça ne les intéresse plus.
Ah, non,
du
non,
tout.
Non,
mais
non,
c'est
non,
ça, mais en fait, puis il y a même un mode de vie qui n'est plus tout le même, qui est des attentes qui ne sont plus tous les mêmes, effectivement. Aussi, le côté, ils peuvent changer facilement de métier. Je pense qu'ils sont moins, on va dire, attachés à leur poste d'un point de vue, on va dire, strictement carrière.
C'est-à-dire
qu'effectivement, si ça ne répond pas à leurs attentes, ils vont partir. Et leurs attentes, quelles sont-elles? Eh bien, c'est effectivement plus d'inclusion, plus de respect des particularités, plus de sens, voilà, donné au travail.
Il y a une question que je voulais vous poser aussi sur l'entrepreneur, justement. Est-ce que, déjà, vous les voyez peu évoluer? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui viennent vous voir en disant « Voilà, j'ai entendu parler de ça, ça serait bien pour mon entreprise, il faut que je trouve des solutions. » Ou est-ce que c'est vous qui allez les voir en disant « Attention, occupez-vous de ça parce que c'est quelque chose qui peut être des solutions. » Comment ça se passe? Moitié-moitié
Alors, nous, la première fois qu'on a eu cette idée, en fait, c'est vraiment parce qu'on est venu nous chercher. Mais là, à l'heure actuelle, on est plutôt en recherche. Donc, on est plutôt en recherche parce que les dirigeants, forcément, ils ne pensent pas forcément à ça parce qu'ils n'ont pas ces soucis-là, même si, in fine, ils l'ont quand même. Mais c'est plutôt des profils DRH, RH, manager
voilà.
qui ont ce problème-là parce qu'ils ne savent pas comment faire. Hein. Le manager, lui, il reçoit tout le monde. Voilà, il a lui-même une vie. Hein, donc, voilà. Et aussi, effectivement, les référents handicap.
Référents QVT, qualité de vie au travail.
Voilà, exactement. Donc, ça, c'est vraiment des personnes que nous, on cherche. Parce qu'on sait, quand on parle avec elles et qu'on leur explique que nous, on sait comment résoudre ces problèmes-là, qui sont vraiment très particuliers, mais qui sont le petit grain de sable qui va tout changer, en fait. Parce que...
Et on parle toujours, en définitive, de la problématique, mais est-ce qu'il y a forcément des managers qui sont neurodivergents et qui peuvent aussi, pour un patron, vous destroyer une équipe parce qu'eux-mêmes sont dans des comportements problématiques? Il n'y a pas de raison qu'il y en a bien qui doivent passer les strates, qui doivent y arriver.
Alors nous, pour en avoir accompagné pas mal, on se rend compte que finalement, ils n'y passent pas. Justement, c'est ça qui est dingue,
d'accord.
C'est qu'ils ne passent pas les strates parce qu'ils ne préfèrent pas les passer.
D'accord.
Ils préfèrent choisir. En général, c'est des personnes qui, comme on disait tout à l'heure, qui ont plutôt fait des bonnes études, fait même des grandes écoles. Mais on voit, ils ne sont pas devenus managers, ils ne sont pas chefs, ils sont dans leur truc. Mais on voit bien qu'il y a un petit regret quand on les accompagne. Parce que des fois, on accompagne les personnes plutôt sur le côté personnel. Et en parlant avec eux, ils disent « Oh, mais moi, ça va bien, je gagne ma vie. » On se rend compte qu'en fait, c'est quand même un regret. Mais ils n'ont pas voulu, justement, parce que pour eux, c'était trop émotionnellement. Parce que, en fait, les gens ne comprennent pas quand vous parlez ou ils vous utilisent. Parce que forcément, vous avez des capacités, vous faites des choses en
oui,
une
oui.
heure quand les autres mettent 10 jours, voire plus. Hein. Je dis 10 jours pour être sympa. mais voilà, donc en fait, si vous voulez, vous servez les gens, ils vous utilisent. Vous, ça vous arrange bien parce que finalement, voilà, on ne vient pas trop vous chercher. Mais c'est vrai qu'on voit rarement, on voit beaucoup de neuroatypiques dans l'entrepreneuriat où eux-mêmes sont entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur entreprise. Mais en tant que bien placé dans une entreprise, c'est plus rare. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, attention.
Mm-hmm.
Mais souvent, c'est des gens qui ne cherchent pas à monter dans la hiérarchie.
Voilà. J'ai une dernière question sur ce sujet-là. Je voudrais que vous nous parliez de au-delà du potentiel. Quelques mots, il nous reste 5 minutes, même pas. Est-ce que vous êtes novateurs tous les deux? Ou est-ce que vous sentez qu'à travers la France, il y a d'autres cabinets ou de coaching ou d'accompagnement qui sont dans la même démarche que vous?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est parti effectivement. Donc déjà, effectivement, merci de mentionner cette émission que tu as créée. C'est vrai que c'était vraiment. En fait, on a voulu créer cette émission effectivement pour inclure
l'innovation dans les entreprises.
L'innovation. Oui, ouais. Non, mais l'innovation. À la base, en fait, on était parti donc sur effectivement la spécialisation autour de ça.
Mais vous êtes nombreux, c'est ça l'idée. Ouais. Est-ce que vous êtes plusieurs cabinets comme ça, ou est-ce que vous êtes très novateur justement par votre...
Pour moi, pour la gestion des conflits, je pense qu'on est relativement novateur. Je dis pas qu'il y en a pas qui existent d'autres. Hein. On connaît pas tout le monde, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui sensibilisent ça effectivement. Mais pour vraiment la gestion des conflits et de ça, je pense qu'on est relativement novateur.
En allant sur votre site, donc j'ai vu cette émission qui s'appelle Au-delà du potentiel.
Avec un O.
Voilà, avec un O, voilà, comme ça. Peut-être en dire quelques mots, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, Pablo, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que vous avez un site qui est très bien fait, hein, je conseille vraiment.
Merci.
On va donner tout avant de partir. Donc là, on a vraiment...
C'est Pablo qui a fait le site.
Super, Pablo. Donc je me suis baladée dessus, j'ai vu cette émission, et en une minute, Pablo, comment vous est venue cette idée de au-delà du potentiel?
À la base, du coup, c'est Isabelle, du coup, ma mère, qui m'en a parlé, qui m'a dit oui, tu penses qu'on pourrait créer une émission là-dessus, sensibiliser à la neurodiversité, mais surtout parler comme ça, ne pas avoir de tabou là-dessus, c'est vraiment en faire un sujet ouvert et pas juste quelque chose de où on sait pas trop ce que c'est, ou alors et puis parler des problématiques concrètes. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de génial. Comme ça, on a effectivement de plus en plus de personnes qui nous suivent, des invités qu'on a, donc que ce soit des experts, des personnes qui apportent un témoignage. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi, on pense à un concept du coup novateur, parce que c'est vraiment une émission effectivement où vous pouvez nous poser vos questions, on vous répond. Et
on est accompagné donc du coup de Virginie Dis, qui accompagne elle, surtout les mamans d'enfants TDAH, donc elle nous accompagne. Et donc on a maintenant, c'est une fois par mois, premier jeudi du mois, et on a pratiquement tout le temps un invité. On est en général en direct, sauf voilà. Et vous pouvez interagir, et souvent on annonce, vous pouvez par exemple vous inscrire à notre newsletter en allant sur notre magnifique site qu'a créé Pablo, qui est aussi webmaster et qui fait des super sites. Voilà,
j'en
profite. Et parce que on ne peut pas faire qu'une seule chose, ce n'est pas possible.
Vous êtes deux très grands bosseurs. Hein. C'est difficile des fois d'arriver à se caler un petit rendez-vous.
Ouais, c'est vrai.
Je suis ravie, mais vous êtes des très très grands bosseurs.
Et du coup, donc vous pouvez nous poser vos questions. Et franchement, on a des super invités. Si vous avez envie aussi de venir témoigner en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'entrepreneur, enfin nous, on est ouverts à tout. Là, on a comme projet, donc la prochaine fois, on reçoit Elvire...
Cassan.
Elvire Cassan, qui a écrit l'Odyssée des 10. Donc ça, il faut vraiment venir parce que ça va être génial. Après, on va parler du sommeil avec une somnopédagogue, parce que ça, c'est un gros, gros problème pour les neuroatypiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet sur la musique?
L'humour.
Sur l'humour.
Plein de choses.
Donc franchement, si vous-même, vous avez des idées, si vous voulez venir témoigner, si vous avez une méthodologie spécifique, n'hésitez pas, on sera ravis de vous recevoir. En tout cas, d'échanger avec vous d'abord et de vous recevoir, si on est tous d'accord.
On ne voit pas le temps passer avec vous.
Non.
Merci beaucoup Isabelle, merci Pablo pour ce riche et inspirant partage. Donc vous pouvez retrouver Isabelle, ça c'est vraiment important, vous pouvez, chers auditeurices, retrouver Isabelle et Pablo sur leur site. Quel nom?
Potentielautop.com.
Les réseaux?
Exactement.
La chaîne YouTube où vous avez...
Delà du potentiel.
Voilà. Et puis page Facebook?
Ah oui, on a page Facebook.
Voilà. Vous êtes très actif. On a compris que Pablo, il était Instagram.
Non. Instagram
voilà. Aussi. Oui,
donc c'est vrai que l'émission est trop courte. Il faudrait qu'on en fasse plus régulièrement tous les trois. Et avec ce sujet passionnant, et puis on sent vraiment que vous y mettez plus que du professionnalisme. Vous y mettez un supplément d'âme et ça s'entend à votre voix. C'était trop court, mais c'était super. C'était le 10-10 du lundi. Paf, paf, paf. Je sais
22.
Pas. 22, merci Valérie, merci Isabelle.
En plus, je m'appelle Valérie.
Avant vous, j'étais avec Isabelle, alors c'était la matinée des Isabelles. Et puis je remercie encore Yann pour son précieux soutien, concours, regard, amitié, tout le reste. Voilà, merci Yann.
Merci.
Et à demain pour un autre 10-10. Au revoir.
Au revoir.